Réplique des vaches et des hommes avec Jocelyne Porcher et Yann Sergent. Le dimanche 20 mars, sur une autre antenne, j'ai dit mon hostilité à la ferme des 1000 vaches installée à Ducras dans la Somme et j'en ai exposé les raisons. Quelques jours après cette émission, j'ai reçu une lettre amicale et critique. Son auteur, Yann Sergent, m'invitait à visiter une ferme pratiquant ce type d'élevage pour voir ce qu'il en est et me guérir de mes préventions. Je n'ai pas encore eu la possibilité de me rendre à cette invitation, mais mon correspondant a bien voulu lui répondre à la mienne et dialoguer aujourd'hui avec Jocelyne Porcher, auteur notamment de « Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle ». Avant d'entamer cette discussion, je voudrais demander à l'un et à l'autre de mes invités de se présenter. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelle a été votre trajectoire professionnelle? Yann Sergent, pour commencer.
Alors, je suis vétérinaire. J'ai commencé par 6 ans d'élevage. Je travaillais dans des centres de recherche sur le zébu. Après ça, je suis rentré en France et j'ai fait de l'élevage de poissons en mer pendant une 15aine d'années. J'ai eu une petite entreprise de fumage et l'ensemble s'est cassé la figure parce que j'ai pas su négocier les choses avec la grande distribution.
Et alors maintenant, qu'est-ce que vous faites?
Après, j'ai travaillé pendant 3 ans comme vétérinaire inspecteur en abattoir parce qu'il fallait bien faire bouillir la marmite. C'était pas un travail réjouissant. Et puis, j'ai pris quelques années sabbatiques pour aller naviguer un peu et ensuite j'ai travaillé en vache laitière à la pointe de Bretagne, ce qui m'a permis de voir les élevages, des élevages de différentes tailles et d'avoir un peu d'expérience sur l'élevage laitier moderne.
Vous avez travaillé en vache laitière, mais toujours comme vétérinaire?
Comme vétérinaire, oui.
C'est-à-dire vous alliez inspecter ces vaches? J'allais, vous veniez à la demande des agriculteurs quand
elles étaient
malades?
J'ai pour des vaccinations parce que c'était la période où il y a eu l'épidémie de FCO et il fallait vacciner les bovins contre cette maladie. Et ensuite, j'ai commencé à les soigner, à aller dans les fermes quand les éleveurs nous appelaient.
Jocelyne Porcher.
Actuellement, je suis directrice de recherche à l'INRA et je travaille sur la relation de travail entre humains et animaux. Enfin, ce que mon parcours a de particulier, c'est que j'ai pu poser certaines hypothèses grâce au fait que j'ai été éleveuse moi-même. J'ai travaillé comme éleveuse de brebis laitières. Je faisais du fromage, je suis née au rural. Je me suis installée dans les années 80.
Donc vous avez commencé en réalité comme éleveuse? Vous aviez déjà une activité professionnelle?
Non, je suis née au rural. J'étais secrétaire en fait, à Paris.
Ah, vous êtes une née au rural, étiez citadine?
Voilà, j'étais citadine à Paris. Je travaillais dans une grande entreprise comme secrétaire. J'ai quitté ce métier, je suis allée à la campagne et c'est petit à petit donc ce que je raconte dans Vivre avec les animaux qu'en fait.
Qu'est-ce qui vous a poussé justement à quitter la ville pour la campagne et à devenir éleveuse?
Je crois que j'étais jeune, donc en fait j'avais envie de vivre une vie que j'aurais choisie quoi, et pas quelque chose qui avait été tracé par mes origines sociales.
Et votre expérience d'éleveuse a duré combien de temps?
10aine d'années, mais j'ai arrêté pour des raisons familiales et j'ai repris un parcours de formation alors que je m'étais installée avec juste le minimum nécessaire qui était à l'époque le BPA. J'ai repris un parcours de formation du BTA à la thèse après avoir été éleveuse. Donc c'est ça qui a en fait vraiment joué sur les hypothèses de recherche que j'ai posées, c'est j'avais été éleveuse avant d'apprendre quoi que ce soit en fait sur l'élevage.
Votre ferme, votre entreprise, je ne sais pas quel mot employer, marchait bien. Vous n'avez pas abandonné parce que vous n'arriviez pas à joindre les deux bouts.
C'était une petite ferme de néo-rural. Hein.
Dans quelle région?
Dans la région toulousaine. Donc non, j'aurais pas vécu si j'avais vécu seul. J'aurais pas vécu de mon travail si j'avais vécu seul. Mais c'est le cas de beaucoup de néo-ruraux aujourd'hui en fait. Dans la vie privée et la vie au travail s'articulent pour faire en fait un mode de vie qui est lié à la campagne.
Très bien. Bon, maintenant, j'en sais un peu davantage sur l'un et sur l'autre. Nous pouvons commencer la discussion et parlons simplement de cet exemple. Juste à titre d'exemple, la ferme des 1000 vaches. Je suis allé à Amiens il y a quelques semaines parce que deux associations, L214 et Écologie sans frontières, avait assigné la direction de la ferme des 1000 vaches en référé à la société exploitante de la ferme pour obtenir qu'enfin une visite des installations et des animaux soit faite en toute transparence sous le contrôle de la justice. Le procès a eu lieu, j'ai assisté à l'audience et d'ailleurs les deux associations en l'occurrence ont été déboutées. On estimait que des vétérinaires s'étaient déjà rendus sur les lieux et qu'une nouvelle inspection n'était pas nécessaire. Mais une association de riverains que j'ai rencontrée à Amiens avait publié une petite brochure dans laquelle j'ai lu un texte de vous, très bref mais très intéressant, Jocelyne Porcher, intitulé « 1000 vaches, non, 1000 ouvrières invisibles », où vous dites que, en l'occurrence, dans les fermes de ce type, l'existence des vaches se résume à la production. Pouvez-vous élaborer un peu cette critique avant qu'éventuellement Yann Sergent vous réponde ?
En fait, c'est le cœur de mon travail, de montrer que la condition animale et la condition humaine sont liées dans les systèmes de production industrielle et pas industrielle. Donc cette ferme des 1000 vaches, si on la regarde que du point de vue des animaux, du bien-être, de l'éthologie, effectivement, on peut considérer que bon, voilà, ça va. Les vaches ont des tapis de sol comme ci, comme ça, de l'alimentation, elles ne sont pas malades, elles ne boitent pas, etc.
Il y a des boiteries quand même.
Oui, enfin non, mais c'est une supposition, enfin, on pourrait dire ça. Mais en fait, si on regarde les choses par l'angle du travail, on s'aperçoit que ce qui fait le sens du travail, de la relation de travail entre humains et animaux, là, est complètement pulvérisé parce que les vaches, leur monde est réduit complètement à la stabulation, à la traite. Il y a des travailleurs qui traitent sans arrêt. Et donc, en fait, voilà, il y a une perte complète du monde des vaches. Et ça n'a pas de sens, en fait, c'est ça que je creuse, c'est qu'il faut que la relation de travail entre humains et animaux ait du sens, d'abord pour qu'elle ait une légitimité, pour qu'elle soit comprise, assumée, partagée par tout le monde, quoi. Et là, dans ces exploitations, parce que là, on est bien dans une exploitation, pas dans une ferme, enfin, moi, je récuse complètement le terme de ferme-usine, hein, c'est un oxymore comme oui. Élevage industriel, voilà. C'est...
Oui, vous récusez même oui, ferme-usine, oui. On le comprend d'ailleurs. Quand on dit ferme-usine, c'est pour faire apparaître l'oxymore. Oui. Quand on dit on dit élevage industriel, oui. Et vous récusez ce terme, vous dites qu'en fait, il s'agit de production de machines animales.
Oui, oui.
Sous l'égide oui. De la zootechnie. Donc, voilà. Il ne peut pas y avoir d'élevage industriel. C'est soit l'élevage voilà. Comme relation, oui. Soit l'industrie comme rupture de toute relation.
Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que ces fermes de 1000 vaches ou autres, comme là, en ce moment, il y a pas mal de projets de développement de ces usines de production animale. Moi, j'appellerais ça, c'est des usines de production animale, que ce soit les taurillons, que ce soit les poulets, que ce soit les cochons. On en est dans un processus d'accélération de ces projets en ce moment. Et c'est en fait, voilà, c'est la même question. Qu'est-ce que font les animaux avec nous là-dedans et quel est le sens de la relation qu'on a avec eux ?
Yann Sergent.
Alors, sur le fait que 1000 vaches ne posent pas plus de problèmes que de bien-être animal que 200 vaches ou 100 vaches, je vois qu'on est d'accord. Je suis donc allé voir l'éleveur chez lequel je vous invite, et je lui ai parlé de ça, et il m'a dit, je cite, « Dis à ton philosophe que 1000 vaches, c'est pas une fois 1000 vaches, c'est 1000 fois une vache, que chacune a sa personnalité, que lui, il n'a pas 1000 vaches, il en a 200. » Je crois que c'est une... Je parle de vaches laitières, hein, je ne parle pas des autres secteurs. Je suis passé dans des petits élevages, dans des gros élevages. Réellement, il y a des bons éleveurs dans toutes les tailles d'élevage et je pense pas que ça pose de problème particulier. Que ensuite l'homme et l'animal vivent ensemble, ça je suis complètement d'accord. Que les conditions soient dures, je suis d'accord aussi. Le fait que les animaux ne sortent pas en pâture, je comprends que ça puisse blesser et offusquer. Mais je voudrais vous raconter une anecdote. On a deux juments et on en a une qui est morte il y a 3 ans. L'autre s'est retrouvée toute seule, un peu paumée. Donc je l'ai gardée à la maison pendant une quinzaine de jours pour qu'elle s'habitue, qu'elle se calme. Ensuite, je l'ai conduite dans une pâture qui est à 2 kilomètres de chez nous, où elle avait passé beaucoup de temps, une pâture superbe, pleine d'herbe, avec vue sur la mer. Une demi-heure plus tard, elle était rentrée à la maison, elle était retournée toute seule dans une stalle dans laquelle je la mettais en hiver la nuit, dans un bâtiment sombre, et c'est là qu'elle préférait être. Sa priorité, c'était pas l'herbe, la pâture, le plein air, c'était la sécurité. Et vous le dites très bien, madame, dans votre livre, ce sont des herbivores, ce sont des proies, et ce qui compte pour eux avant tout, c'est la sécurité. Donc je crois qu'il faut pas commettre l'erreur de s'identifier à eux, on peut pas.
Vous dites, on ne peut pas s'identifier à eux. Vous êtes d'accord l'un et l'autre pour dire que c'est pas forcément le chiffre qui importe. En effet, ce qui choque un certain nombre de gens dans la ferme des 1000 vaches, c'est l'enfermement et l'isolement des animaux. Enfermement, elles ne voient jamais l'herbe ni le ciel. Elles vivent dans des logettes d'où elles ne sortent que 3 fois par jour pour la traite. Donc, en effet, ouvrières et machines et rien d'autre. Vous voulez m'interrompre ?
Oui, parce que là,
vous avez raison.
Je crois que vous n'avez jamais vu de logette. En fait, c'est une logette, c'est simplement un endroit où la vache peut venir se coucher. Mais elle est libre d'entrer et de sortir de cette logette, de parcourir les couloirs, d'aller à l'endroit où elle peut manger. Ça n'est absolument pas un enfermement. C'est pas vrai, ce sont des lieux de repos. La logette s'oppose à la stabulation. L'éleveur chez lequel vous êtes allé voir les vaches faire la danse de printemps a fait l'apologie de la stabulation. Et il a raison, c'est un choix qui s'oppose à la logette. Mais la logette, si vous voulez, a l'intérêt d'être un endroit où la vache s'isole, qui est toujours propre parce que c'est conçu pour qu'elle ne puisse pas faire demi-tour, donc qu'elle ne puisse pas souiller la paille de son abri. Et donc elle est à l'abri. Ça évite le piétinement de sa mamelle par les voisines éventuellement.
Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus?
C'est-à-dire que ce soit des logettes ou de la stabulation, là, le fait est qu'elles ne sortent pas, effectivement, elles ne vont pas pâturer, elles ne marchent pas, elles ne ruminent pas. Elles ruminent si, mais elles ne pâturent pas. Elles ne peuvent pas, par exemple, courir. Elles sont dans un univers uniquement humain. C'est ça le problème. Elles sont dans une construction humaine, dans le travail humain et uniquement. Les animaux en élevage, ils ont un monde, ils ont leur propre monde. Le propre monde d'une vache, c'est dehors, c'est la pâture.
Alors justement, vous avez fait référence à l'agriculteur auquel, en effet, j'ai rendu visite le lendemain de l'audience d'Amiens. En effet, j'avais vu un documentaire à la télévision avec cet agriculteur qui présentait cette danse des vaches. Donc j'ai essayé d'entrer en contact avec lui par une journaliste de Marianne, ça m'a été possible, et il m'a invité à venir voir la danse des vaches, et c'était le lendemain. Et en effet, j'ai assisté à la première sortie de ces vaches, après le long hiver dans l'étable, j'ai vu ces animaux, si lourds et si apathiques, qu'on pourrait les croire dénus de sensibilité, manifester leur allégresse en gambadant comme des petites filles. Donc cette joie m'a appris quelque chose sur ce que pouvait être leur souffrance de ne jamais être dehors. C'est-à-dire que, si vous voulez, peut-être que d'ailleurs cette souffrance-là, le concept de bien-être animal, qui n'est pas inutile, ne la mesure pas. Mais en effet, sans les brutaliser, sans leur faire des mal, on les plonge en les condamnant à l'enfermement perpétuel, dans un insondable chagrin. Et Monsieur de Largière, c'est son nom, m'a fait visiter ensuite ses installations. Ce sont des étables ouvertes sur l'extérieur, il n'y a pas de logette, les vaches vivent ensemble, et ce qui est très intéressant, m'a-t-il dit, selon l'atavisme qui les pousse à se protéger d'un agresseur éventuel, vous le dites très bien, Madame Porcher, ce ne sont pas des prédateurs, ce sont des proies. Elles dorment en rond. Or, tout cela, tout cet équilibre, est rompu par la production de machines animales ou l'élevage industriel, peu importe, en l'occurrence, la formulation. On a envie de dire, quand même, à un moment donné, de quel droit ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous autorise à nous comporter ainsi ? Yann Sergent.
Je comprends qu'on se pose la question. D'une part, ce sont des vaches qui ont été sélectionnés pour ce type d'activité. Hein, les Holstein ne sont pas des vaches qui peuvent marcher longtemps, ne sont pas des vaches que vous allez emmener dans une pâture à 1 kilomètre parce que c'est trop. Et ce sont des vaches qui, vous parliez de béton, pour lesquelles au moins tout l'hiver, le béton est beaucoup mieux que la pâture extérieure où elles vont s'enfoncer, où elles vont avoir des lésions de pied. Mais vous entendre parler de la souffrance animale comme ça, ça me fait penser à une citation de Tocqueville que vous avez utilisée récemment, où vous parliez du fait que les gens, dans la démocratie, étant égaux les uns des autres, ont l'impression d'appréhender la souffrance des autres. Et si vous permettez, je vais la citer. « Il n'y a donc pas de misère qu'ils ne conçoivent sans peine et dont un instinct secret ne lui découvre l'étendue. En vain, s'agira-t-il d'étrangers ou d'ennemis ? Là, je rajouterai de vaches. L'imagination le met aussitôt à leur place, elle mêle quelque chose de personnel à sa pitié et le fait souffrir lui-même tandis qu'on déchire le corps de son semblable. Et quand je vous entends vous identifier aux vaches, j'ai un peu l'impression qu'il y a ça. Ce sont vraiment des animaux très différents de nous, extrêmement malléables, et qui vivent autre chose. Je suis pas sûr qu'on puisse se substituer à elles, et je suis même persuadé qu'on ne peut pas.
Non, je suis d'accord que les vaches, justement, sont dans leur monde, voilà, et nous, on est dans le nôtre, mais du fait qu'on travaille ensemble, on est dans un monde commun, et c'est dans ce monde commun que notre relation doit prendre sens. Maintenant, vous dites qu'une vache Holstein, elle a été faite pour être sur du béton. Je veux dire, quel que soit le niveau de sélection qu'on a sur les animaux, une vache, c'est une vache. Et d'ailleurs, il suffit de voir des Holstein élevés autrement qu'en stabulation pour voir qu'elles sont effectivement mieux dehors que... Enfin, dehors, je veux dire, dehors, quand la saison s'y prête. Hein, je ne suis pas en train de réclamer le plein air intégral pour les Holstein. Mais la sélection n'annule pas le rapport des vaches à leur monde propre. Quoi. C'est pas... Une vache, ça reste une vache, dans un monde de vaches.
Vous tombez d'accord sur le fait qu'on ne peut pas se mettre à leur place, mais on peut tout de même, à la place des vaches, supposer leur souffrance en voyant leur joie. C'est Bentham qui disait « La question n'est pas peuvent-ils raisonner ni peuvent-ils parler, il s'agit des animaux, mais bien peuvent-ils souffrir ?» Voilà, c'est une réponse à Descartes, hein, et à Malebranche surtout, qui était une sorte de cartésien absolu, puisqu'il donnait des coups de pied dans un chien, dans sa chienne, en disant, de toute façon, ça ne sent pas. Descartes ne serait jamais allé aussi loin. Enfin, peu importe. En tout cas, peuvent-ils souffrir? Oui, ils peuvent souffrir, et peut-être qu'il y a du stress chez les animaux, et peut-être y a-t-il une forme de souffrance psychologique, parce que nul ne se serait douté que les vaches dansent en arrivant au mois de mars, en sortant de l'étable, en arrivant sur le pâturage. Or, elles le font. Donc, il leur manque bien quelque chose si, précisément, elles sont toute leur vie enfermées la tête encastrée, parfois, entre des barreaux métalliques. Et puisque vous avez cité Tocqueville, je citerai à mon tour un autre auteur dont j'ai découvert la phrase que je vais dire dans un texte d'Élisabeth de Fontenay. C'est Lamartine. On n'a pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal. On a du cœur où on n'en a pas. Yann Sergent.
Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord.
Bon, alors très bien. Mais continuons quand même.
Oui, j'allais arriver à la conclusion que ne vous occupez pas des vaches, les éleveurs le font, et préoccupez-vous des éleveurs, ils en ont sérieusement besoin. Mais vous avez parlé de stress, et à propos de stress, je voudrais m'appuyer sur les épaules d'un géant qui est Henri Laborie. Henri Laborie, le père de mon oncle d'Amérique, le grand-père d'Emmanuel Laborie, qui a décrit le premier la notion de stress en l'expérimentant sur des rats. Il s'est aperçu qu'en les stressant régulièrement, il arrivait à provoquer l'apparition d'ulcères. Non seulement il a montré que ça se produisait, et en plus, il a expliqué comment ça se passait et quel était le système neuro-hormonal qui conduisait à la baisse de l'immunité des animaux qui étaient stressés. Dans un premier temps, le stress conduit à amener le sang vers le cerveau et les muscles. C'est soit la lutte, soit la fuite. Et puis dans un deuxième temps, quand ni la lutte ni la fuite ne peuvent se produire, on arrive au mal-être, ce que j'appelle le mal-être, qui se traduit par une sécrétion de glucocorticoïdes qui perturbe complètement les défenses de l'organisme et donc qui les affaiblit. Et il faut absolument éviter d'arriver à ce stade-là, parce qu'à ce stade-là, les productions animales sont évidemment perturbées.
Mais il y a d'autres raisons, parce que vous dites qu'il faut arriver à ce stade. On a l'impression que vous mettez exclusivement du point de vue du confort humain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas stresser les animaux, parce que la production animale est perturbée, et la viande ne sera pas tout à fait assez bonne. Mais vous voyez bien que ce raisonnement, on ne peut pas que le suivre jusqu'au bout, parce que c'est un raisonnement purement utilitaire. Et peut-être faut-il justement mettre une limite à l'utilitarisme pour retrouver la relation avec l'animal, même l'animal domestique.
Vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que l'éleveur soit contraint d'éviter le mal-être pour des raisons simplement pratiques, c'est déjà un garde-fou.
Oui,
ensuite, on peut se demander s'il faut mettre le curseur plus loin. Mais là, ça devient extrêmement compliqué.
Où est-ce qu'on va le... Je crois que c'est pas... Là, enfin, si vous, si, bah oui, si vous ramenez la question de la, des conditions de vie des animaux dans ces systèmes à des questions de mal-être, vous passez à côté de, vraiment de quelque chose de fondamental qui est le rapport des animaux au monde, leur subjectivité, leur affectivité. C'est pas du mal-être qu'éprouvent les animaux. Alors moi, je ferais plus référence à la production porcine, puisque je la connais fort bien. C'est de la souffrance. C'est une souffrance, en plus, dont j'ai montré qu'elle impactait les travailleurs en leur générant une souffrance morale, éthique, la souffrance de faire souffrir les animaux. Donc c'est de souffrance qu'il faut parler. La souffrance, c'est l'être subjectif qui est malmené, et c'est bien au-delà du stress, quoi. C'est le rapport à la vie, c'est la vie même, et le rapport subjectif à la vie des individus, animaux et humains, qui est...
Mais en même temps, Jocelyne Pachet, vous faites dans vos livres une critique très, très forte et profonde de ce concept de bien-être, puisque justement, vous mettez en cause, en l'occurrence, la pensée instrumentale, la raison calculante, comme si on pouvait tout quantifier. Or, peut-être le problème vient-il de la quantification généralisée. Mais vous écrivez aussi que le processus industriel des productions animales vise à désanimaliser l'animal et en faire une chose. Les productions animales sont une monstrueuse machine à fabriquer des choses. Or, avec ce concept de bien-être, on peut justement enrayer la machine. Si L214, cette association, porte son nom en référence à un article du Code rural qui définit les animaux comme des êtres sensibles. Et on a pu, au tribunal, invoquer le bien-être animal, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de plaider pour l'environnement, pour le confort humain, mais c'est une sorte de rupture, de brèche ouverte dans l'anthropocentrisme, puisque c'est l'intérêt de l'animal lui-même qui est invoqué jusque dans une cour de justice. Donc, il y a peut-être, si vous voulez, des aspects positifs dans l'introduction du bien-être animal, dans le droit, et même dans la sensibilité générale.
Non, mais je crois qu'il y a deux choses. Il y a le bien-être animal en tant que problématique scientifique, donc qui date des années 80 en France et qui en fait vise à rendre acceptables pour les animaux les systèmes industriels et à les rendre socialement acceptables pour nos concitoyens. Donc voilà, ça fait 30 ans qu'il y a des financements de recherche sur le bien-être animal dans cette optique-là et qui conduisent effectivement aux 1000 vaches et à l'idée que voilà, un système avec 1000 vaches, il peut y avoir du bien-être animal, mais du bien-être animal normé, quoi. Le bien-être animal, c'est des normes. Après, tout ce que promeut l'antispécisme, la libération animale et autre chose, les autres, c'est autre chose. On n'est pas dans le même... Il y a une problématique qui est portée par la biologie, les biologistes, une problématique qui est portée par des philosophes. Et les deux, à mon avis, d'ailleurs, se trompent.
Mais, encore une fois, il faut bien s'adosser à quelque chose pour contester les pratiques actuelles, pratiques quand même qui peuvent aller très loin. Vous avez parlé de l'élevage, la production de porc, hein. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, Jocelyne Porcher, le salon de l'agriculture est une sorte de village Potemkin, c'est-à-dire on vous présente des villages du cochon, on photographie des enfants, on fait des selfies avec les cochons, alors que les porcs ne sont plus des animaux de ferme, et les conditions auxquelles ils sont soumises peuvent être absolument terribles. Là, j'ai avec moi le livre de Jonathan Safran Foer, « Faut-il manger les animaux ?» Alors il parle de la situation américaine, et je vous demandez, Yann Sergent, si c'est la même chose en France. Il parle de la truie d'élevage industriel moderne qui est maintenue autant que possible en état de grossesse pour le restant de ses jours. Quand elle arrive à terme, on lui injecte des drogues afin de déclencher le travail au moment le plus pratique pour l'éleveur. Une fois ses porcelets sevrés, la truie, grâce à des hormones, est rapidement amenée à reprendre son cycle afin d'être prête à être de nouveau inséminée artificiellement en seulement 3 semaines. Dans 80% des cas, une truie passe les 16 semaines de sa grossesse enfermée dans une cage de gestation, si étroite qu'elle ne peut même pas se retourner. Sa densité osseuse diminue du fait de son manque de mouvement, privée de litière, elle développe souvent, à force de se frotter contre les parois de la cage, des blessures de la taille d'une pièce de monnaie, noirâtres et suintantes de pus. Plus graves, mais aussi plus insidieuses, sont les souffrances qu'engendre l'ennui, l'isolement, le refoulement du puissant désir de la truie de se préparer à l'arrivée de ses petits. Dans la nature, elle passerait le plus clair de son temps avant l'accouchement à fourrager pour bâtir un nid d'herbe, de feuilles ou de paille. Voilà, donc, et il ajoute, les truies gravides, comme tous les porcs dans la chaîne industrielle, doivent se coucher ou marcher dans les excréments pour les expulser par le plancher ajouré. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça se passe en Bretagne aujourd'hui?
Non, c'est strictement, je n'ai jamais mis les pieds dans un élevage de porcs.
Ah bon? Mais vous êtes gardé de le faire?
Non, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Qu'en fait, ce sont des vétérinaires très spécialisés qui s'occupent de ça, et je n'ai jamais été appelé dans un élevage de porcs. Ce que je peux dire par contre, c'est que j'ai fait un bref séjour dans un abattoir de reproducteurs où j'ai vu effectivement qu'il y a des reproducteurs qui sont dans des états qui ne sont pas acceptables, alors que j'ai passé 3 ans en abattoir de porcs charcutiers dans un gros abattoir industriel, et j'ai vu des animaux qui ne semblaient pas avoir été martyrisés. Je ne sais pas ce qui s'était passé avant, mais c'était des animaux en bon état, pas craintifs, pas peureux. Donc c'est tout ce dont je peux témoigner. Pour ce qui est de l'élevage, Jocelyne Porcher pourra en parler beaucoup mieux que moi.
Alors, pas de l'élevage, oui.
Qu'est-ce que vous savez de justement? Parce que j'avais parlé des porcs tout à l'heure, justement.
Non, mais je connais bien cette production. Effectivement, la description est un peu. Il y a des choses qui sont décalées par rapport à la production en France, mais ce qui est juste, c'est qu'il y a. Dans ces unités de production, on produit du porc. C'est ça qu'il faut. On produit de la matière animale. C'est pas de l'élevage, on en est loin. C'est même pas de la production de porc avec un S. On produit du porc. On est vraiment dans la production de matière animale qui a été conceptualisée au 19e siècle par la zootechnie, de faire cette relation de travail aux animaux qu'était l'élevage, une production de matière animale. Et en production porcine, on est vraiment là dans un monde ultra violent où. Les salariés, les producteurs sont dans la course quoi, pour produire cette matière animale porcine au plus vite, au moins cher. C'est un monde très très violent.
Alors, puisque on en est aux citations, je voudrais lire un petit passage de Claudel que j'ai trouvé dans le livre de Christian Lavorde. La cause des vaches, sur le cochon, un éloge du cochon. C'est une bête solide et tout d'une pièce, sans jointure et sans cou, ça fonce en avant comme un soc, cahotant sur ses 4 jambons trapus, c'est une trompe en marche qui quête, et toute odeur qu'il sent, y appliquant son corps de pompe, il l'ingurgite. Et sur la truie, son flanc est plus obscur que les collines qu'on voit au travers de la pluie, et quand elle se couche, donne à boire au bataillon de marcassins qui lui marchent entre les jambes, elle me paraît l'image même de ces monts que très les grappes de village attachées à leurs torrents, non moins massives et non moins difformes. Voilà. C'est le temps où le cochon est un animal et non pas simplement de la matière animale. Mais là, Jocelyne Porcher, est-ce que vous pensez qu'il est possible et souhaitable de sortir justement de cette production de machines animales, ce que vous refusez donc d'appeler l'élevage industriel, et de revenir à un autre type d'élevage, celui que pratique par exemple Monsieur de Largière, que j'ai vu dans l'Oise? Est-ce que c'est une utopie pour le 21e siècle, ou bien n'est-il pas déjà trop tard? Première question. Deuxième question, est-ce qu'un tel type d'élevage ne pose pas de graves problèmes écologiques? Question que vous abordez dans un de vos livres, Jocelyne Porcher.
Moi, je pense que, de toute façon, les systèmes industriels sont condamnés à leur propre dissolution dans leur fonctionnement même. Ils vont être remplacés par soit de la production de matière animale par d'autres acteurs, par exemple, on pense à la viande in vitro, sur quoi travaille, soit par des substituts à l'alimentation carnée portée par, justement, le mouvement vegan, etc. Donc, de toute façon, pour moi, ces systèmes industriels, ils sont nés au milieu du 19e siècle, ils vont disparaître au milieu du 21e.
Ah bon? Mais en même temps, on dit toujours que c'est une possibilité de nourrir la planète, des traités de libre-échange sont en discussion, et peut-être justement la viande américaine beaucoup moins chère va-t-elle inonder notre marché, ce qui tuera effectivement, mais ce qui tuera pas la production animale, qui risque de tuer des élevages comme ceux de Monsieur de Largière.
C'est-à-dire, imaginer voilà, avoir une vision prospective de l'avenir à propos des productions animales et de l'élevage. Pour moi, les productions animales sont condamnées dans leur propre, à leur propre dissolution, que ce soit aux États-Unis ou ici, parce que voilà, elles vont être remplacées par autre chose. Par contre, c'est vrai que l'enjeu, c'est de préserver l'élevage en tant que rapport historique de travail aux animaux. Et là, c'est possible. C'est possible, alors non pas de revenir hein, en arrière. Moi, je pense pas qu'on revienne à quoi que ce soit. Les éleveurs d'aujourd'hui sont pas les éleveurs d'hier. Les animaux d'aujourd'hui sont pas pour eux les animaux d'hier. Mais on peut inventer un autre élevage aujourd'hui. Enfin, moi, je rencontre beaucoup d'éleveurs qui ont des systèmes d'élevage qu'ils ont... voilà, qui ressemblent à leurs animaux dans un territoire avec certaines relations aux consommateurs. Chaque éleveur a avec ses animaux des relations particulières et il construit son système d'élevage. Et on peut imaginer, voilà, que, enfin, refaire de l'élevage en France, enfin, surtout qu'en France, on a des atouts extraordinaires pour faire de l'élevage, justement, et sortir des productions animales.
On peut être d'accord sur le fond, mais ce que je pense, si vous voulez, c'est que s'attaquer à la ferme des 1000 vaches ou à des élevages comme ça, c'est s'attaquer à des effets dont on a tous collectivement mis les causes en place. Hein. En 61, l'Union européenne a signé un accord avec les États-Unis, au terme duquel l'Europe s'interdit de taxer les oléagineux en provenance des États-Unis. Ça a totalement renversé l'élevage dans toute l'Europe.
Pourquoi?
Parce que du coup, il a été plus intéressant de produire des animaux avec du concentré qu'avec des pâturages.
C'est ça.
Oui. Donc on a tout déséquilibré. 61. Hein. Bon, ensuite, il y a eu les agrandissements de l'Europe. Donc l'Allemagne se retrouve avec de la main-d'œuvre pas chère en provenance de Pologne et de Tchéquie. Ensuite, il y a eu le fait que l'Allemagne a arrêté le nucléaire, donc rachète très cher l'électricité produite par les méthaniseurs en Allemagne. Donc ils ont 8000 méthaniseurs en Allemagne, pas tous pour l'élevage bien entendu, hein, alors qu'il y en a quelques centaines en France. Et je me souviens dans la région dans laquelle j'étais il y a une vingtaine d'années, il y avait eu un gros projet de méthanisation.
Qu'est-ce que c'est exactement la méthanisation?
C'est une façon de traiter en anaérobie les déchets, les déjections animales ou d'autres produits, hein, des déchets verts ou les et de produire du méthane. Donc si vous voulez, dans le méthane, on l'utilise ensuite pour faire tourner une turbine, pour faire de l'électricité, ou on l'injecte dans les réseaux de gaz de ville. L'intérêt de ce méthaniseur, c'est que au lieu d'avoir des effluents d'élevage qui sont un coût, ils peuvent représenter éventuellement une petite ressource, donc ils permettent de diminuer le prix de vente. Donc en Allemagne, ils ont beaucoup de méthaniseurs, des prix de rachat de l'électricité élevés, ça leur permet de diminuer beaucoup leurs coûts. Ils ont une main d'œuvre pas chère, et les frontières sont toutes grandes ouvertes. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, mais si on veut avoir un mode d'élevage différent en France, il faut fermer les frontières. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Ou alors on condamne nos éleveurs à mort. La ferme des 1000 vaches, c'est ça. C'est quelques éleveurs qui se mettent ensemble et qui disent on va produire suivant le modèle allemand, comme ça on arrivera à tenir au niveau de prix.
Alors justement, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. J'ai lu dans Le Point un article de Pierre-Antoine Delomet disant ceci. Depuis 20 ans, l'élevage en Europe du Nord s'est entièrement restructuré. Regroupement et concentration à marche forcée ont permis de créer des exploitations de grande taille capables de produire au coût le plus bas. Grâce à l'élimination des élevages les moins compétitifs, à la spécialisation, à l'innovation technologique et à l'agrandissement des exploitations, la production s'est améliorée en Europe du Nord, tandis qu'elle stagnait en France. La production porcine, puisque c'est vraiment le vocabulaire, là, on retrouve la production porcine, on est très très loin de Claudel et de ses cochons, n'a augmenté en France que de 9%, quand elle a progressé en même temps de 29% au Danemark et de 43% en Allemagne. Ce qui, d'ailleurs, incite un certain nombre de politiques qui refusent d'être taxés de conservateurs. C'est très intéressant. Les refus du conservatisme parmi les Républicains. Nous sommes le parti des gaz de schiste et des OGM, a dit Luc Chatel. Refus et aussi à gauche, puisque la grande opposition, selon Emmanuel Macron, c'est l'opposition entre progressistes et conservateurs. Mais même Hervé Mariton dit que ceci, les procès faciles à la ferme des 1000 vaches sont dramatiques. Elles conduisent à enfermer le raisonnement agricole français dans une vision restreinte qui n'est pas l'avenir de notre agriculture. Il faut assumer cette modernisation. Les dimensions qui font frémir en France paraissent assez moyennes dans bien d'autres endroits. Donc, ça contredit, semble-t-il, Jocelyne Porcher, votre diagnostic ou votre pronostic. On s'oriente vers toujours plus de production animale et toujours plus de concentration, et les Français, les agriculteurs français, pour survivre, sont invités, notamment par leur syndicat principal, la FNSEA, à faire pareil. Donc, alors vous dites, on est en train de tourner la page, Jocelyne Porcher.
Non, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est dans un processus de concentration, d'industrialisation accélérée. Mais est-ce que, enfin, c'est comme la poursuite en production porcine du cochon en plus ou qui va augmenter la marge. Qui va être gagnant dans cette compétition infernale? Est-ce qu'en France, on a les moyens d'être compétitif sur des systèmes de grande dimension? Et est-ce que c'est intéressant d'un point de vue sociétal cette course à l'industrialisation? C'est pas ce que veulent les citoyens français, c'est pas ce que veulent les consommateurs. Est-ce que c'est pas possible d'être compétitif sur des produits de qualité, d'abandonner effectivement les systèmes industriels, de les laisser aux Allemands s'ils veulent faire, et les consommateurs français qui voudront acheter allemand, qu'ils achètent allemand, mais qu'on développe en France. Et au contraire, vous dites que ça fera disparaître les éleveurs, mais nous, au contraire, si on choisissait de refaire de l'élevage en France, on pourrait multiplier le nombre d'élevages qui sont en train de disparaître. Au contraire, on pourrait justement recréer de l'emploi en élevage. Enfin, c'est l'inverse qui pourrait se passer. Alors que là, si on poursuit dans cette direction, non seulement on perdra la compétition, parce qu'on n'a pas les moyens de la gagner, et d'autre part, on fera disparaître l'élevage. Et en plus, on discrédite complètement, et là on donne du grain au moudre aux abolitionnistes, on discrédite complètement la relation de travail aux animaux. Et donc en fait, on sera perdant sur tous les tableaux. Et on perdra vraiment l'élevage.
Je ne veux pas dire que je souhaite cette évolution. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, en lait, on est compétitif, puisque les Chinois sont venus installer une usine il y a 3 ans. Bon, l'usine a tourné au ralenti ou pas du tout à la suite de la petite crise en Chine, mais ils viennent d'annoncer qu'ils allaient faire 2 autres unités. Donc ça prouve qu'ils sont contents de trouver du lait en Bretagne et qu'on n'est pas loin. Par ailleurs, moi je pense qu'il faut faire confiance aux éleveurs. Si vous voulez, on peut pas parachuter de Paris. Les 97% de Français qui ne sont pas agriculteurs, je vois pas bien au nom de quoi ils pourraient continuer à donner des leçons aux autres. Ça me paraît assez...
Il y a des agriculteurs qui, eux-mêmes, ne se résolvent pas à cette évolution, la combattent. Je citais celui de près de Beauvais que je suis allé voir, mais il n'est pas le seul, Madame Porcher.
Bien sûr. En fait, j'avais oublié ce que je voulais dire. Et, oui, vous me ramenez dans cette voie-là. En fait, il y a effectivement des gens qui font... par exemple, du Beaufort avec de la tarine ou de l'abondance sur des pâturages de montagne. Il y a des gens qui font du bio, il y a des gens qui font de la tradition salaire, il y a des gens qui ont des niches extraordinaires, et c'est formidable comme ça. C'est très très bien. Je suis passé, parce que je savais que je venais ici, au marché où j'ai vu des fromages entre 20 et 40 euros le kilo. Je suis passé ensuite en grande surface où il y avait des fromages à la coupe qui étaient entre 15 et 25 et des fromages pré-emballés qui étaient entre 6 et 10 euros. Je pense qu'il y a un marché pour des Rolls-Royce, il y a des marchés pour des Logan. Hein. Et quand on voit les linéaires de yaourt et de fromage dans la grande distribution, s'ils sont comme ça, c'est que les gens viennent se nourrir là. Donc, si vous voulez, je crois que le problème s'attaquer aux élevages, c'est pas là le problème. Le problème, ça peut être un problème d'éducation, ça peut être un problème, comme disait Edith Cresson, vos emplettes sont vos emplois, c'est vrai. Hein? Donc, on peut espérer modifier ce système que vous n'aimez pas, son évolution, mais certainement pas en s'attaquant aux élevages.
Et si je ne m'attaque pas aux élevages, au contraire, je défends l'élevage. Ce que je critique, c'est les systèmes de production animale qui font effectivement l'essentiel de la production.
Mais que répondez-vous, Jocelyne Porcher, à ceux qui disent, grâce à ce système de production, tout le monde aujourd'hui peut manger de la viande, il y a des produits qui étaient hier des produits de luxe, qui sont devenus des produits de consommation courante. Cet argument, comment lui répondre?
Ce que je constate, c'est que les produits d'élevage sont devenus des produits de luxe. Où est-ce qu'on trouve, par exemple, du porc noir de Bigorre aujourd'hui, dans le 5e arrondissement? Moi, je ne trouve pas ça normal que justement des produits d'élevage, dans leur simplicité, dans leur vérité de la relation aux animaux, deviennent des produits de luxe.
Mais parce qu'ils sont plus chers.
Mais ils sont plus, ils sont plus chers. Mais s'il y avait des milliers d'éleveurs qui faisaient ce type de production, évidemment, le prix baisserait. Mais si on met en concurrence le porc noir de Bigorre avec le porc breton, évidemment, mais le porc breton, de toute façon, déjà, on ne tient pas compte des coûts réels. Parce que si on prenait les coûts réels de la production porcine, le coût sur l'environnement, le coût sur la santé du travail, au travail, des travailleurs. Enfin, si on prenait tous les coûts réels, vraiment, déjà, on ne serait plus du tout dans le même niveau de prix. La question de l'économie, elle doit être prise dans sa globalité. Le fait de revenir à des choses. Et moi, c'est ça vraiment que je trouve qui montre à quel point il y a eu des évolutions tragiques, que finalement, on réserve à une partie de la population une alimentation dégradée et dont on sait qu'elle produit des dégâts sur la santé, on le sait. La production porcine, vous avez des résidus d'antibiotiques, 600 tonnes d'antibiotiques par an dans la production porcine en France, vous avez des résidus d'hormones, c'est de l'eau en fait que vous achetez quand vous achetez du cochon industriel. Donc voilà, c'est de l'eau avec des cochonneries, c'est le cas de le dire, pour les masses populaires. Et puis du porc noir de Bigorre pour ceux qui ont les moyens. C'est pas durable comme ça et c'est pas durable pour l'élevage, parce que l'élevage ne survivra pas avec une dizaine d'éleveurs de cochons noirs de Bigorre. C'est pas possible.
Sergent.
Oui, j'ai entendu deux choses, je suis désolé, sur lesquelles je suis complètement pas là. Enfin, une avec laquelle je suis pas du tout d'accord et l'autre que je voudrais expliquer. Vous dites qu'il y a plein d'antibiotiques. On avait des programmes à l'abattoir de recherche d'antibiotiques, deux programmes, un programme aléatoire où on prenait régulièrement une centaine d'échantillons et un programme ciblé. Quand on voyait un cochon, on se disait celui-là a très probablement été soigné, on ciblait l'échantillon. On n'en trouvait pas une demi-douzaine sur 1,5 million de cochons par an.
Enfin, la filière porcine utilise 600 tonnes d'antibiotiques par an. Voilà,
c'est possible. Mais enfin, ce sont des animaux à sang chaud. Les antibiotiques sont métabolisés relativement vite. Je peux vous dire qu'au niveau de l'abattoir, on n'en trouvait pas. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui explique la qualité du cochon, en fait? C'est relativement simple. Les Français mangent du jambon. Et les hygiénistes leur ont dit qu'il fallait pas manger de gras. Donc, ils demandent du jambon maigre. Or, quand vous voyez la croissance d'un mammifère, pousse d'abord les os longs, vous voyez un adolescent, un poulain, un veau, ensuite pousse les muscles et ensuite pousse le gras. Donc on abat les animaux avant que le gras ait commencé à s'installer. Or, c'est le gras qui donne le goût, et la proportion en eau et la proportion en gras ont une relation inversée. Donc effectivement, pour avoir des jambons conformes au goût français, tout le reste du cochon est insipide.
Excusez-moi, c'est pas le goût français, c'est le goût qu'on a imposé aux consommateurs depuis les années 70, depuis le plan de rationalisation de la production porcine. En 1970, l'État et les filières professionnelles ont décidé qu'on allait rationaliser cette production porcine, qu'on allait faire une production industrielle. On a saccagé complètement les races de cochons, etc., puisqu'il ne reste plus que 6 races locales en France qui regroupent 2000 reproducteurs. Donc on a imposé aux gens je pense qu'ils aimeraient bien manger du vrai cochon, ça.
Pardon. Oui, on leur a imposé pour des raisons de santé, pour des raisons hygiéniques, pour des raisons parce qu'on dit, voilà, le gras, c'est pas bon. Donc il y a une espèce de pression quand même qui relève peut-être de la manipulation, mais aussi de l'obsession de la santé qui, aujourd'hui, régit le goût majoritaire. Mais maintenant, je voudrais en venir à la question, vous y avez fait très brièvement référence, Jocelyne Porcher, du spécisme et plus généralement de la libération animale, parce que c'est une cause très puissante aujourd'hui. Quand on voit des images de certains abattoirs, le Vigan, Alès, la Soule, etc., c'est au nom, ce sont des militants de la libération animale qui présente, qui diffuse ces images, qui nous invite même à cesser d'être carnivores. Et le spécisme, c'est l'idée selon laquelle il ne faut introduire aucune discrimination entre les différentes espèces, entre les hommes et les autres animaux. Et cette discrimination, elle est pensée, ou cette prétendue discrimination, est pensée sur le modèle du racisme et du sexisme. Alors, que pensez-vous d'un tel mouvement, d'une telle évolution de la sensibilité, Jocelyne Porcher?
Ces idées sont issues vraiment du livre fondateur de Peter Singer, Libération animale, et l'on retrouve aujourd'hui toujours les mêmes idées, justement, voilà, de spécisme, sexisme, racisme, sans considérer que dans le cas du sexisme, on a des hommes et des femmes, des êtres humains. Dans le cas du racisme, on a des êtres humains aussi. Dans le cas de nos relations d'animaux, on a des relations avec des animaux qui ne sont pas des humains, avec qui on a depuis des milliers d'années des relations de travail, des relations alimentaires, puisqu'ils font partie de notre alimentation. Donc on n'est pas du tout, enfin, là on est sur des éléments de comparaison qui sont absurdes de mon point de vue. Maintenant, cette idée, en fait, elle empêche complètement de penser la spécificité de nos relations aux animaux, qui est une relation de travail. Quand les antispécistes critiquent, par exemple, la domestication, comme dit Slaughter et Dax, c'est une monstrueuse cohabitation, la domestication, c'est vraiment ne pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'un animal.
Et c'est surtout ne pas faire de différence fondamentale entre l'élevage comme relation.
Exactement.
Et la production animale.
Mais oui, mais parce
que... Ce sont différentes modalités d'une même exploitation avec laquelle il faudrait en finir. Et on se demande, mais oui, mais si il n'y a plus d'animaux domestiques, il n'y aura pas d'animaux. C'est-à-dire, on va pas... Il y aura peut-être quelques vaches en liberté, mais il n'y aura plus de vaches.
Non, mais donc... c'est surtout que ce mouvement, effectivement, fait pas mais volontairement ne fait pas la différence entre les productions animales et l'élevage. Parce que l'élevage, si on s'y intéresse, on s'aperçoit que ce qui nous lie, c'est-à-dire la relation de travail, n'est pas un état d'asservissement des animaux, mais au contraire, comme j'ai montré dans des articles, il y a une collaboration des animaux. Voilà. La domestication, c'est pas fait...
Un partenaire de labeur, vous dites.
Oui, mais la domestication, les processus domesticatoires ne sont pas faits sans les animaux. Il y a, toutes les espèces n'ont pas été domestiquées. Les espèces qui sont domestiques sont des proies, à l'exception du chien. Pourquoi ? Parce qu'elles ont intérêt à vivre avec des humains.
Enfin, on les libère de quelque chose, on leur donne l'inquiétude.
Moi, ce que je crois, la libération animale, en fait, c'est vraiment un projet politique de libération des humains, des animaux. Ils n'ont pas de libérer les animaux. Effectivement, si on libère les animaux, entre guillemets, c'est une relation domesticatoire qu'on tue. Et donc, effectivement, on s'achemine vers un monde sans animaux. Et pour moi, les associations de libération animale, L214, les antispécistes, travaille à ce projet qui est un projet politique, en fait, d'une autre société, une société où les animaux sont plus assez rentables, sont plus assez productifs, et donc on peut les remplacer par des choses avec des brevets, des robots, des ci, là, de la viande in vitro.
Et où l'espèce humaine elle-même cesserait d'être carnivore. Il y a cette double idée, une espèce de mutation, d'amélioration de l'homme qui cesserait d'être carnivore. Yann Sergent, qu'est-ce que vous pensez d'un tel...
Je crois que le problème vient du fait qu'on ne sait plus remercier. Je veux dire, les aborigènes, quand ils tuent un animal, ils en prennent toujours un petit morceau qu'ils rejettent à la terre, qui est une façon de remercier. Dans l'abattage cachère, il y a une prière. Dans l'abattage halal, il y a une prière. Dans l'abattage chez les chrétiens, il n'y en avait pas, mais il y avait un bénédicité qui était merci pour ça. Et si on n'est pas capable de remercier l'animal en disant... C'était un repas. Parce que l'abattage, c'est pas une élimination. C'est là où la comparaison avec les camps d'extermination est totalement injuste et inappropriée. L'abattage, c'est la transformation d'un animal vivant en un produit qu'on va essayer de transformer en plaisir à travers la consommation.
Oui, mais enfin, l'abattage industriel, quand même... cette comparaison, ça a un peu du sens.
Parce Alors, écoutez,
l'abattage industriel, il n'y a plus de... Il n'y a plus de place pour le remerciement, ce sont les cadences infernales de la tuerie.
C'est très curieux parce que effectivement, à chaque fois, c'était une sensation extrêmement pénible, mais en même temps, quand vous regardez la chaîne telle qu'elle se déroule, pour chaque animal, ça se passe à peu près au mieux. Et le problème, c'est de savoir comment, et c'est un peu le même problème avec l'élevage, comment est-ce que pour l'animal, on a quasiment optimisé les conditions d'élevage, on a optimisé les conditions d'abattage au point de vue objectif, et on en ressort avec une sensation de malaise épouvantable. Vous avez sans doute lu la chronique de Paul Thibault l'autre jour.
Oui, une très belle chronique dans Le Figaro.
Elle est superbe, et il y a cette dernière phrase, aussi justifiée que soit notre réprobation des conditions de l'abattage, mais on pourrait dire la même chose de l'élevage, elle manifeste peut-être l'assoupissement et non l'élargissement du sentiment de notre humanité. Et je me demande si on n'a pas des questions à se poser là-dessus, le fait de savoir dire merci, d'avoir un devoir et pas seulement des droits.
Enfin, c'est pas dans les systèmes industriels qu'on aura l'occasion de dire merci. Dans un abattoir, pour ça, on tue 850 porcs à l'heure. Moi, j'ai fait des enquêtes dans ces abattoirs, j'ai discuté, eu des entretiens avec les seigneurs ou les assommeurs. Non, c'est pas possible de dire. Ils voudraient bien dire merci. Enfin, on travaille actuellement là-dessus sur des alternatives à l'abattoir.
Oui, vous pensez qu'on peut revenir à l'abattage à la ferme. Même,
voilà, on défend dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Quand l'abattoir vient à la ferme, on défend l'abattage à la ferme parce que c'est la demande de nombreux éleveurs avec qui je travaille et qu'on rencontre, qui est que l'abattoir industriel, mais aussi, on l'a vu, les abattoirs dits de proximité, qui en fait sont des petits abattoirs industriels, c'est ça le problème. C'est que là aussi, il y a une perte de sens. Il faut, effectivement, il faudrait pouvoir dire merci, mais dans les abattoirs actuellement, petits ou grands, les éleveurs ne peuvent pas. C'est pour ça que l'alternative pour les éleveurs de petite taille, hein, ceux qui n'abattent pas énormément d'animaux, on peut donner les conditions pour que, d'une part, l'animal ne sorte pas de la ferme, et d'autre part, qu'il y ait entre l'éleveur et que l'éleveur puisse effectivement ritualiser la mort de son animal. C'est-à-dire lui donner du sens, parce que c'est ça ritualiser, c'est donner du sens. Moi, je connais beaucoup d'éleveurs, par exemple, qui récitent des poèmes dans leur tête ou pas, qui sont dans un... Dans
et est-ce
un...
que les conditions d'hygiène nécessaires, exigées aujourd'hui, seraient réunies dans ce type d'abattage, ouais, au Seine-Porcher? Parce que c'est sans doute l'objection la plus forte qui vous sera faite. Non, au nom, justement, de la sécurité du consommateur.
Mais là, quand vous voyez comment fonctionne un abattoir industriel... Là, franchement, la question du sanitaire, enfin, il n'y a pas photo entre les éleveurs qui actuellement sont dans l'illégalité, qui abattent chez eux parce qu'ils ne veulent pas emmener leurs animaux à l'abattoir. Et c'est ça notre projet, c'est de rendre peut-être légal des pratiques illégales. Elles sont, les éleveurs, en fait, ont une exigence vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de l'hygiène, vis-à-vis de les consommateurs, mais sans rien avoir avec ce qui se passe dans les systèmes industriels.
Je ne voulais pas dire du tout que c'était à l'abatteur de dire merci. Je voulais dire que c'est au consommateur de dire merci.
Aussi, oui. Hein,
l'abatteur comme l'éleveur, pour moi, ils sont les boucs émissaires, non pas dans le sens où ils sont montrés du doigt, mais dans le sens où ils portent la douleur de tout le monde sur cet élevage, sur l'abattage, etc. L'éleveur est pas content de voir ses animaux partir. Même moi, quand j'avais des truites, j'étais malade quand je savais qu'on allait commencer la saison d'abattage et que j'allais commencer à les tuer. L'éleveur est malheureux. L'abatteur, dans toute la partie où les cochons étaient vivants dans l'abattoir, les gens étaient graves. Dès que le bac d'échaudage était passé, les gens plaisantaient entre eux, étaient de bonne humeur, s'échangeaient leur place et ça se passait bien. Eux, ils portent la douleur pour tout le monde. Et c'est aux autres de leur dire merci au lieu de les montrer du doigt et de les condamner, à mon avis.
De leur dire merci, mais dès lors que certaines conditions sont respectées et l'abattage avec des cadences infernales, peut-être ne respecte-t-il pas ces conditions. Je vais vous lire pour finir, Yann Sergent, et vous réagirez très vite, une dernière citation du juriste Jean-Pierre Marguénot. La soumission de l'élevage, des transports, de l'abattage, de l'expérimentation aux exigences de la rentabilité et à l'inflexible loi du marché mondialisé font qu'il n'y a sûrement jamais eu autant d'animaux souffrant aussi terriblement que depuis qu'il existe des lois pour les protéger.
Non, ça, j'ai l'intime conviction que ça n'est pas vrai.
Et vous avez...
Je pense exactement
ça. Vous pensez que c'est vrai.
Et notamment via le bien-être animal, problématique du bien-être animal.
Bon, bah écoutez, voilà, nous avons commencé par un désaccord, nous terminons par le même désaccord, mais je pense que cette discussion aura éclairé les auditeurs. Merci beaucoup Jocelyne Porcher et Yann Sergent. Vous trouverez les références bibliographiques de l'émission sur les sites répliquefranceculture.fr où l'émission est disponible. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La mémoire de la guerre d'Algérie ». Mes invités seront François Dorcival et Benjamin Stora. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Dechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui Alain Joubert, dans un instant Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet, à l'Élysée avant 1958, Figuration, Influence, Pouvoir avec Nicolas Rousselier.